également, Nike a dit à ses investisseurs et a dit à dans ses différentes rencontres aux actionnaires dans les derniers mois qu'ils allaient vraiment faire des coupures dans les prochaines années sur leurs différents investissements qu'ils faisaient. Ils vont couper jusqu'à 2 milliards de dollars dans les prochaines années sur les différents investissements commanditaires qu'ils faisaient dans le passé. Ils se sont retirés du golf, si ma mémoire est bonne, je pense en 2016, au niveau des commandites. Ils ont gardé ce qu'on appelle un petit peu des legacy deals, un qu'ils avaient avec Tiger Woods, mais ils se sont quand même retirés à travers le temps. Donc, je pense que ici, on a un peu une tempête parfaite d'une entreprise qui veut se retirer d'un sport, d'un athlète qui a marqué son époque et qui est en fin de carrière. Et bon, il faut quand même dire que ça a été un partenariat assez important, on pourrait dire, pour les deux parties. Un demi-milliard de dollars sur plus de 20 ans, je pense que c'est assez important. Donc, on est de retour sur le podcast Discussion d'affaires, le podcast hypercroissance qui sort maintenant chaque lundi, chaque jeudi, depuis plus d'un an maintenant. Et ça, c'est grâce à nos incroyables invités. Et l'un d'entre eux, c'est Jonathan Léveillé qui est toujours avec nous aujourd'hui. Jonathan, comment ça va?
En pleine forme, Antoine. Aujourd'hui, prêt pour le podcast.
Et là, on a des nouvelles. Encore une fois, on parle beaucoup d'intelligence artificielle sur le podcast, mais également des nouvelles au milieu sportif. Jonathan, je pense que tu as lu certains points qui ont marqué ton attention et que tu voulais ouvrir une discussion avec moi aujourd'hui.
Absolument. J'ai vu une nouvelle passer qui probablement vous en avez entendu parler, mais je veux creuser un petit peu avec toi, Antoine, parce que je sais que tu es un très grand amateur de sport et la nouvelle relie et le sport et le côté affaires. Je dis pourquoi pas te lancer quelques questions là-dessus puis essayer de creuser un peu le sujet. Et la fameuse nouvelle, c'est Tiger Woods et Nike qui mettent fin à leur entente qui date de très, très, très longtemps. Si ma mémoire est bonne, à peu près 27 ans, que les deux entreprises avaient une entente de partenariat ou plutôt de commandite à travers tout ça. Et je pense que ça a énormément aidé Nike à travers le temps. Ça a énormément aidé Tiger Woods. Je pense que Nike n'a pas laissé tomber Tiger Woods quand il y a eu beaucoup d'éclaboussage sur Tiger Woods. Et là, c'est terminé. Et là, j'ai tellement de questions pour toi, Antoine. Tu as peut-être un petit peu d'informations là-dessus. Tu es une machine à connaître certains détails au niveau sportif. Je suis convaincu que tu as été documenté là-dessus. Je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu du pourquoi la fin de cette entente-là, qu'est-ce qu'il y a eu comme bénéfice pour chacune des parties et c'est quoi la suite aussi après ça, quand on met fin à une aussi longue entente, qu'est-ce qui se passe un peu pour les deux marques? Parce que Tiger Woods est une marque en soi, Nike est une marque en soi aussi. C'est quoi la suite pour ça et comment toi tu vois ça? Fait que j'étais curieux, Antoine, de t'entendre parler un petit peu là-dessus.
Ben oui, clairement. Puis je pense que ce qui est important de remettre en perspective un petit peu aujourd'hui, c'est où dans sa carrière Tiger Woods est rendu. C'est-à-dire que, comme tu l'as mentionné, ça fait environ 27 ans maintenant qu'ils ont commencé le partenariat. À la fin des années 90, quand Tiger Woods avait gagné ses premiers tournois majeurs, Nike s'était empressé d'aller vers lui et de lui offrir une commandite pour l'avoir avec eux. Et ça a été un partenariat excessivement important. On parle ici de plus de 500 millions de dollars qui ont été donnés à Tiger Woods pendant l'ensemble de ce partenariat-là. Ça a aidé Tiger Woods au niveau financier, comme on vient de le dire, mais également Nike, comme Nike a grandement bénéficié d'avoir Michael Jordan à son année recrue quand il est arrivé dans la NBA. Donc ça, c'est un petit peu pour les faits. Et effectivement, Nike sont restés aux côtés de Tiger Woods à travers les années quand il y a eu toutes ces histoires d'adultère qui sont sorties, tous ces enjeux qu'il y a eu, je dirais, vers le début des années 2010. Vraiment, si on regarde l'évolution de Tiger Woods, il a atteint le sommet vraiment de sa carrière vers la fin des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. C'est à ce moment-là qu'il était très dominant, également même au niveau des années 2000. Et là, à partir de 2010, il y a eu des blessures, il y a eu toute la crise au niveau de ces différents adultères. Et Nike, ils sont restés à ses côtés. Tiger Woods a continué à gagner des titres à travers le temps, mais il n'a jamais été capable de retrouver le même niveau et la même constance, surtout parce qu'on sait le golf, c'est un sport qui demande beaucoup de constance. Donc ça, c'est important de comprendre que le plus beau de sa carrière pour Tiger Woods était derrière lui. Tiger Woods est né en 1975, donc vous aurez compris, cette année, il va tomber à 49 ans. Habituellement, au golf, les joueurs, ils peuvent jouer pendant un certain temps, mais à partir de 50 ans, ils vont jouer dans le circuit senior, qu'on appelle. Tu peux continuer à jouer avec les professionnels, les plus jeunes, il n'y a pas de souci, mais habituellement, il y a un changement qui se fait, tu t'en vas jouer dans le volet senior. Donc, pour Nike, c'était plus nécessairement l'endroit peut-être le plus intéressant pour eux à s'intégrer au niveau publicitaire, parce que Tiger Woods est en fin de carrière. Comme je l'ai dit, il approche la cinquantaine. Également, Nike a dit à ses investisseurs et a dit dans ses différentes rencontres aux actionnaires dans les derniers mois qu'ils allaient vraiment faire des coupures dans les prochaines années sur leurs différents investissements qu'ils faisaient. Ils vont couper jusqu'à 2 milliards de dollars dans les prochaines années sur les différents investissements commanditaires qu'ils faisaient dans le passé. Ils se sont retirés du golf, si ma mémoire est bonne, je pense en 2016, au niveau des commandites. Ils ont gardé ce qu'on appelle un petit peu des legacy deals, un qu'ils avaient avec Tiger Woods, mais ils se sont quand même retirés à travers le temps. Donc, je pense que ici, on a un peu une tempête parfaite d'une entreprise qui veut se retirer d'un sport, d'un athlète qui a marqué son époque et qui est en fin de carrière. Et bon, faut quand même dire que ça a été un partenariat assez impressionnant, important pour dire pour les deux parties. Le 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars sur plus de 20 ans, je pense que c'est assez important. Et à partir de là, quelle est la suite pour Tiger Woods? Je pense qu'il va davantage travailler avec son propre brand à lui. Mais bon, à suivre un petit peu pour les prochaines étapes, il n'y a pas eu d'annonces spécifiques qui ont été faites à ce niveau-là.
Et si je comprends bien, Nike regardait peut-être pour se retirer complètement du golf ou du moins réduire significativement leur implication dans ce sport-là ou cette activité-là, qui aurait probablement motivé à dire on retire là, à ce moment-là le partenariat avec Tiger Woods. Là.
Je pense. C'est dit, Nike se sont retirés, puis je vais le reconfirmer à l'instant, mais ils se sont retirés du golf en 2016. Donc, encore une fois, je pense qu'ils avaient une entente avec Tiger Woods qui s'achevait. Et là, ils ont pris la décision des deux parties de simplement terminer tout ça. Il faut savoir une chose, que c'est que Tiger Woods n'a plus la même ampleur qu'il pouvait avoir dans le passé. C'est-à-dire, on n'a pas le même succès, même ici, en termes de vente, d'accessoires, de linge, que ce que Michael Jordan peut avoir avec son entreprise qui a été capable de créer Air Jordan à travers les années. On parle vraiment pas du même volume d'affaires ici. Donc, clairement, il y avait plus tellement de bénéfices pour Nike de rester derrière lui si, en plus de ça, il n'est plus une étoile dans le circuit.
Et surtout que son nom a été entaché, là. Tout ce qui est arrivé au niveau des scandales, c'est pas très glorieux pour une marque de mettre ça de l'avant puis de promouvoir ça, là. Donc, de ce que je comprends un peu, c'est un partenariat qui était déjà signé dans le temps. Alors, c'était à prévoir qu'ils allaient arrêter ce partenariat-là du fait qu'ils se sont retirés du golf officiellement. Et que ça arrivait à la fin à ce moment-là, l'entente avec Tiger Woods. Donc, c'est un non-renouvellement d'une entente plus qu'une fin à ce moment-là d'un contrat. Là.
Exact. Puis, je pense que ce qui est intéressant de voir... Ben, d'ailleurs, est-ce que tu as d'autres questions sur le volet Tiger Woods? Parce que je trouvais que ça m'amenait un point intéressant à discuter un petit peu avec toi aujourd'hui et même de l'amener à notre audience, de l'impact que les athlètes ont maintenant sur le volet du marketing, comment tout ça a changé.
Mais ce que j'aurais aimé ça savoir de ton opinion, c'est l'argent, elle a bougé de quel sport à quel sport, parce qu'on voyait beaucoup le basketball dans le temps, Tiger Woods avec le golf. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de grandes transactions financières dans le monde du soccer. Est-ce que c'est un mouvement à ce moment-là de l'argent, mais une multiplication en plus qui s'en va, je pense, pratiquement tout vers le soccer? Est-ce que c'est un peu ta perception du marché à l'heure actuelle?
Écoute, c'est une excellente question que tu poses et je pense que ça vaudrait définitivement la peine d'aller voir à quel point qu'il y a eu une augmentation des investissements commanditaires vers le foot, le soccer dans les dernières années. Instinctivement, j'aurais le goût de te dire oui, parce que clairement, le foot a toujours été un sport mondial. La Coupe du Monde, c'est l'événement sportif le plus écouté au monde par beaucoup. Si les gens pensent que c'est le Super Bowl, vous trompez complètement. Vas-y, Joe.
Et Antoine dit du foot parce que là, il est en Europe et il est rendu habitué de dire foot au lieu de soccer. Donc,
c'est le vrai terme, exactement. Mais oui, soccer, foot, c'est l'événement sportif le plus regardé au monde, la finale de la Coupe du Monde, par un degré de magnitude incroyable. Et là, comme on l'a vu dans la dernière année, ben, il y a eu un avancement important en Amérique du Nord, du soccer, du foot dans les dernières années. Mais là, en plus, avec l'arrivée de Messi, qui est argumentablement le plus grand joueur de tous les temps, ça donne beaucoup plus de visibilité au sport. Et je pense qu'un des points intéressants que je voulais amener à l'attention aussi de l'audience, parce que j'étais content quand tu m'as parlé de ce sujet-là dans notre groupe chat, je me suis dit, ça valait la peine d'aller faire peut-être un petit peu des recherches puis de voir à quel point le domaine commanditaire, marketing au niveau sportif a changé. Et c'est excessivement impressionnant parce que je te poserai une question, Joe, aujourd'hui. Qui, selon toi, aurait plus d'impact en termes de brand entre, je vais prendre un athlète de basketball qui est le plus grand athlète au monde, disons LeBron James ou un Nike de ce moment? Qui, selon toi, a le plus d'impact? Puis c'est un exemple que je donne, puis je prends à donner d'autres. Parce que, vas-y.
Je trouve intéressante ta question parce que ça revient à plusieurs épisodes qu'on a fait dans le passé. Mon opinion, ça va être l'humain d'abord et avant tout parce que les gens ne s'associent pas nécessairement à une marque, mais vont s'associer à un humain qui représente la marque. De là, la logique des porte-parole, des commandites, des choses comme ça. Fait que ma perception, c'est plus la personne que la marque qui a une influence ou un impact au bout de la ligne. C'est pour ça que les marques s'associent avec des humains pour donner une voix, donner un âme à leur marque, puis que les gens puissent s'associer à leur brand au final. Donc, je dirais définitivement l'athlète en premier avant la compagnie.
L'athlète est peut-être plus connu, mais l'athlète dans le passé n'avait pas de distribution autre que pendant son match et après peut-être dans des campagnes de pub. Et là, c'est là que ça devient excessivement fascinant si on analyse tout ça. Donc, je veux juste donner des exemples pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui parce que je trouve que ça fait du sens un peu avec comment qu'on a ouvert la discussion.
Et ça fait un lien, et je pense, je sais où tu t'en vas, Antoine, mais ça va faire un bon lien avec réfléchissez à vous dans vos souliers de genre d'affaires par rapport à votre brand. Ça va être la même chose que tu vas sortir en avant, Antoine. Je te laisse y aller, mais vous pouvez faire ça dans votre propre entreprise, là.
Ben oui, définitivement. Donc, un petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, Adidas, qui est une marque que tout le monde connaît, sur Instagram, au moment où on se parle, 29 millions de gens qui les suivent. Okay? Le plus grand athlète que Adidas commandite, c'est Lionel Messi, qui est le plus grand joueur de foot au monde, peut-être le plus grand joueur de foot de tous les temps. Combien de jours tu penses qu'il a de followers sur Instagram?
Mon Dieu, là, je vais lancer un chiffre. J'espère que je ne serai pas au-dessus de la marque, mais tu connais mes ambitions souvent élevées. Je dirais probablement 200 millions.
Il a 497 millions de personnes qui le suivent, contre environ 30 millions pour Adidas. Donc, si on regarde simplement un chiffre comme ça, c'est plus que 10 fois le nombre de followers que Adidas va avoir sur son compte Instagram ici, avec Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, qui est le plus grand athlète commandité ici, pas par Adidas, mais par Nike. Combien tu penses qu'il a de followers? Et Cristiano Ronaldo, d'ailleurs, c'est l'athlète, ou plutôt même c'est l'individu qui a le plus de followers au monde. Combien penses-tu qu'il en a, Joe?
Là, ça veut dire qu'il bat Messi absolument. Il bat Messi. 550 millions, peut-être?
On n'est pas tellement loin. Peut-être 618 millions de followers ici. Et Nike, qui est peut-être la plus grande marque de sport au monde, a 306 millions de followers. Donc, énorme communauté Nike sur Instagram, même beaucoup plus forte que la majeure partie des entreprises et même des athlètes. Mais encore une fois, on est sur un ratio de 2-1 d'un athlète comparativement à une marque. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui est en train de se dérouler et ça m'amène même à penser de plus en plus au futur, c'est que les grandes marques de ce monde ne vont pas se faire battre dans le futur par des nouvelles marques. Elles vont se faire battre dans le futur par des athlètes et des individus qui décident de simplement, par la bande, lancer un peu leur marque, comme on a pu voir avec la boisson énergisante Prime, qui fait énormément fureur en ce moment. Je pense qu'on fait 250 millions de ventes l'année dernière. Et comment s'appellent les influenceurs de Prime? Logan Paul, exactement, qui eux, encore une fois, ont des énormes présences sur Instagram. Donc, c'est simplement pour donner un petit peu ça en considération, de se dire, c'est quoi une marque aujourd'hui? Oui, c'est bien entendu, c'est une infrastructure, ils sont capables d'habiller les gens, mais en termes de distribution, la dynamique a totalement changé. Littéralement, la dynamique a changé. Pour donner un peu de contexte même, Cristiano Ronaldo, pour faire une publication sur Instagram, il demande 3,2 millions de dollars. Donc, si Nike veut que Ronaldo fasse une publication sur son Instagram qui parle de Nike ou n'importe quelle autre entreprise, ça coûte 3,2 millions. Mais si, ça coûte 2,7 millions.
Mais Antoine, si on se met en perspective de combien ça coûtait un 30 secondes pour le Super Bowl dans le passé, on est à peu près dans les mêmes chiffres, là. Donc, c'est l'équivalent de si on demande à un de ces athlètes-là de faire un post, c'est pratiquement un 30 secondes au Super Bowl. C'est hallucinant parce qu'ils ont vraiment un impact énorme là, à cause de la quantité de followers.
Exactement. Et oui, je pense que encore une fois, ça s'argumente, ça se présente, ça se défend même si on demande ces montants-là, parce qu'effectivement, on va avoir une distribution importante et on va avoir une distribution de fans. Donc, on s'entend, les gens qui suivent Ronaldo, les gens qui suivent Messi, les gens qui suivent LeBron James, les gens qui suivent Tiger Woods sont des fans de la personne, beaucoup plus qu'ils vont être des fans de la marque. On peut être des fans de la marque, mais habituellement, on est quasiment des fois des fanatiques d'un athlète. Et c'est là que je pense que s'installe vraiment une dynamique totalement intéressante, comme on l'avait vu avec le deal que Messi avait signé. Je pense qu'on en avait parlé un petit peu sur le podcast aux États-Unis. Où est-ce que dans son deal, c'était pas simplement un salaire, c'était des redevances sur les ventes que Apple allait faire avec leur système d'abonnement, des ventes que Adidas allait faire aux États-Unis avec l'arrivée de Messi, et également une potentielle équité dans le club de l'Inter Miami à sa retraite. Donc, c'est là qu'on voit un point qui est totalement fascinant, qui est en train de s'intégrer dans cette dynamique de sport, de marque, de commandite. Le pouvoir se change beaucoup. Et je te donne simplement un autre exemple qui est encore dans le monde du foot. Donc, vous pouvez voir ici que je suis un gros fan de foot et de soccer. L'équipe de France, quand c'était la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde de soccer au Qatar, ben là, l'équipe de France, c'est peut-être la meilleure équipe au monde. Plein de joueurs, plein de vedettes, mais il y a une vedette vraiment qui sort du lot qui s'appelle Kylian Mbappé ici. Et ça, on donne un peu de chiffres pour les gens qui nous écoutent en termes de followers sur Instagram parce que c'est vraiment une métrique importante à regarder en toute honnêteté. Kylian Mbappé a plus de 100 millions de followers sur Instagram. Et l'équipe de France, comme toute équipe, a des commanditaires pour faire en sorte qu'ils soient capables de payer leurs installations, payer les billets d'avion, tout le monde. Bref, ils ont des commanditaires. Puis certains de ces commanditaires-là, c'était des commanditaires d'entreprises un petit peu de malbouffe ou des ventes de coca. Donc, des marques, des produits que les athlètes ne veulent pas nécessairement s'associer. Kylian Mbappé, joueur de l'équipe de France, qui doit théoriquement accepter ce que l'équipe de France dit, il dit non, moi je fais pas une photo avec cette marque-là. Après, la discussion, la discussion n'aurait jamais eu lieu il y a 20 ans parce que le joueur n'avait pas de distribution. Le joueur ne pouvait pas dire ce qu'il pensait, ou plutôt pouvait dire ce qu'il pensait, mais il n'y avait pas nécessairement un micro, il n'y avait pas nécessairement une voix, il n'y avait pas nécessairement une portée. Mais maintenant, aujourd'hui, l'argument peut se faire de se dire qui est le plus puissant dans les tables de négociation, l'équipe de France ou Kylian Mbappé qui a 110 millions de followers. Et comment qu'on peut regarder ça? Ben, simplement la distribution, encore une fois. La distribution qu'une personne peut avoir comparativement à l'autre. Et quand tu regardes tout ça, tu te rends compte qu'il peut vraiment y avoir des changements importants qui se déroulent. Et là, on prend l'univers sportif. Et je pense que l'univers sportif, on est capable de pousser le trait ici avec des centaines et des centaines, des centaines de millions de followers. Mais t'en as un excellent point au début du podcast, c'est de se dire, ça, on le voit, et je pense que c'est normal que ça commence avec le volet sportif, parce que c'est dans le volet sportif ou le volet musical, parce que c'est souvent dans ces endroits-là qu'on va bâtir des fanbases, qu'on va idolâtrer les personnes. Mais ultimement, c'est en train de se transformer sur beaucoup d'entreprises. Et je pense que le personal brand, on en parle depuis plusieurs années, mais là, on commence à avoir des éléments concrets qui nous prouvent à quel point ça peut complètement changer la dynamique. J'ai vraiment l'impression que c'est marqué. Encore une fois, Mr. Beast. Mais parlons de Mr. Beast.
C'est
qui
fou.
Qui est en train de révolutionner l'industrie du chocolat. Mais ces chocolats sont pas nécessairement meilleurs que Kit Kat ou que Nestlé. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que tout le monde? De la distribution grâce, bien entendu, un personal brand, une chaîne YouTube qui a été capable de construire. Et je pense qu'on en a déjà parlé sur le podcast, mais de ramener ça à l'attention des gens qui nous écoutent. Et comme tu le dis, de faire comprendre aux gens qui écoutent le podcast, aux propriétaires d'entreprise, le pouvoir de la distribution d'un propriétaire d'entreprise, le pouvoir de distribution qu'un employé peut avoir dans votre entreprise. C'est ça qui fait vivre une marque en 2024. Et là, ça devient exemple après exemple qu'on est capable de voir. C'est excessivement puissant et ça change toute la dynamique de négociation.
Et selon toi, lequel des différents médias sociaux a vraiment créé cette tendance-là qui s'accélère? C'est pas nécessairement Facebook au départ, c'est peut-être plus Instagram, Twitter.
Ouais, je pense que Instagram est vraiment l'endroit où est-ce que les statistiques, les chiffres vont se créer. Je pense que c'est là qu'on peut voir la majeure partie des athlètes également. Créer du contenu. Et là, je parle vraiment de créer du contenu, des photos qu'ils peuvent avoir dans leur vie personnelle et également au niveau plus commercial, les ententes qu'ils vont avoir avec des partenaires. C'est souvent sur Instagram qu'on va le voir. Donc, clairement, je crois que c'est la plateforme de choix en ce moment pour les athlètes et musiciens.
Mais je serais curieux, par contre, d'avoir ton opinion pour aujourd'hui, si on regarde en avant, ou même je vais aller en arrière. Instagram, je pense que c'est la plateforme en arrière de nous. Si on regarde les futures plateformes qui ont beaucoup de potentiel d'être sous-exploitées, moi, ce que j'ai en tête, c'est TikTok et potentiellement YouTube aussi, là. J'ai l'impression que si on veut, en tant qu'entrepreneur, on veut bâtir son brand pour essayer de propulser son entreprise ou sa marque, je pense que Instagram est très, très, très peuplé présentement, même peut-être trop surpeuplé. Et TikTok présentement a peut-être un certain vide où est-ce qu'on peut aller chercher un vacuum intéressant. YouTube également a beaucoup de distributions possibles, entre autres avec la recherche organique sur les moteurs de recherche. Et YouTube est un moteur de recherche en soi aussi.
Bien
Ma
sûr.
Perception en tant qu'entrepreneur, il y a peut-être ces deux médias sociaux-là qui sont peut-être sous-utilisés ici au Québec. Je serais curieux de savoir ton opinion de ton côté, si tu vois autre chose ou si tu as une opinion contraire.
Chaque plateforme a ses pour et ses contre. Je pense qu'il faut le voir un petit peu plus d'un point de vue plus global, de juste comprendre l'importance d'un pouvoir de distribution. C'est assez exceptionnel. Un podcast, tu vois, t'as bâti tes podcasts, Jonathan, dans les dernières années, tranquillement, tu me disais que t'es en train de voir un peu l'impact que ça peut avoir. T'as pris la voie, tu t'es bâti une ligne de distribution. Je pense que c'est surtout ça qu'on doit comprendre. C'est Gary Vaynerchuk qui avait dit ça il y a 4-5 ans et je l'avais pas compris à ce moment-là. Maintenant, je le comprends. Maintenant, toute entreprise, on est un média/entreprise de technologie. On est un média/entreprise de marketing. On est un média/entreprise un athlète. Et c'est, je pense, il y a à peu près un an et demi que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. L'importance de créer du média. De plus en plus, on le voit, les plus grands journalistes américains, soit un, se font renvoyer de leur chaîne de base, ou deux, partent de leur plein gré et construisent leur propre média. Le dernier exemple en date, c'est Tucker Carlson, l'animateur controversé qui était l'animateur le plus écouté aux États-Unis. Plus de 23 millions de personnes qui écoutaient son émission à Fox News. Il s'est fait renvoyer pour certains propos. Il y a eu des gros procès avec Fox. Il est parti, il a créé son média sur X au début parce que c'était le seul endroit qui allait pas se faire censurer. Il a fait une interview avec Donald Trump. Je pense qu'ils ont eu 200 millions de personnes qui l'ont écouté. Mais qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, tous les gens qui écoutaient Fox sont partis de Fox et sont allés se connecter à la nouvelle plateforme de Tucker Carlson. Tucker Carlson devient un média. Et je donne un exemple ici, mais il y en a plein. Si on comprend pas cette dynamique-là qui est en train de s'installer, de se dire on doit devenir un média, on doit devenir une ligne de distribution, ben là, c'est là qu'on perd le jeu parce qu'une audience, ça a ce fameux pouvoir des intérêts composés qui s'installent, c'est-à-dire si tu l'entretiens bien, elle va grossir mois après mois, mois après mois, et ultimement, elle peut avoir des résultats assez impressionnants pour ton entreprise. Donc, tout ce qu'on a vu un petit peu ensemble aujourd'hui, le domaine sportif m'a amené à des réflexions au niveau affaires qui, je pense, valait la peine d'être mentionné sur le podcast.
Très intéressant, Antoine, toute cette discussion-là, puis surtout comment qu'on peut rapporter ça à notre entreprise. Puis c'est pas mal aussi le déclic que moi j'ai fait de mon côté il y a un an et demi à force de te parler, de dire faut vraiment trouver un moyen d'amplifier sa distribution, de personnifier un peu un humain derrière tout ça pour créer de l'impact après ça sur nos ventes, sur notre marque et tout le reste s'ensuit.
Exact. Et on en parle. Comme on parle beaucoup de l'intelligence artificielle sur le podcast, mais le pouvoir de la distribution, c'est excessivement important. Donc écoute, c'était ça le message que je voulais faire passer un petit peu avec l'audience. Aujourd'hui, je trouve que ça faisait un beau, pardonnez-moi l'anglicisme, segue entre la discussion, entre la dynamique avec Tiger Woods et ce qui se déroule avec les athlètes. Des choses à rajouter, Joe, de ton côté avant que je te laisse filer?
Je termine aujourd'hui avec un petit suspense. Je vous invite à aller sur YouTube et taper « Introducing R1 Rabbit », R-A-B-B-I-T. Il y a eu un nouveau périphérique qui a été dévoilé il y a 13 jours au CES, au Consumer Electronics Show, qui a pour prémisse de potentiellement remplacer nos téléphones cellulaires. Donc, je vous laisse sur ce suspense-là. Allez voir, c'est sold out. La vidéo a été vue, plus de 5 millions de vues en 13 jours. Et j'en ai entendu beaucoup parler dans les dernières journées. Leur fondation sur laquelle ou leur prémisse de remplacement du téléphone cellulaire est assez intéressant. Ils ont copié un peu la présentation de Steve Jobs quand il a lancé l'iPhone. C'est très réfléchi, très soigné comme présentation. Allez voir ça, je vous en dis pas plus. On pourra en reparler dans un prochain épisode. Probablement une vague de nouveaux périphériques qui va être introduit et je serais vraiment pas surpris que Apple et OpenAI seraient déjà en train de travailler sur ce type de périphérique-là. On met la note dans la description, on met le lien dans la description de l'épisode. Et je vous invite à aller voir ça.
Fantastique. Jonathan, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se rappelle, on est un média avant d'être une entreprise. Je reprends la fameuse phrase de Gary Vaynerchuk. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.